Sur la piste animale de Baptiste Morisot. Chapitre 5. Cosmologie du lombric. Première partie. On peut bien partir au fond des forêts de l'Ontario ou des steppes kirghizes pour faciliter l'apprentissage d'un pistage philosophiquement enrichi, activant ainsi d'autres manières de voir par la force du regard éloigné. Ce n'est jamais qu'un détour possible pour rentrer chez soi. C'est parmi nous que prospèrent ou périclitent les vivants, tout contre nous. Et il n'est pas nécessaire d'arpenter des lieux exotiques ou de s'indianiser pour pister, c'est-à-dire pour se laisser affecter par la multiplicité tissée des manières d'habiter qui sont le monde commun. La forme d'attention, la qualité précise de disponibilité que la pratique enseigne nous ramène tout droit à la maison en deux sens énigmatiques. Le premier sens, le plus philosophique, c'est que le monde qu'on nous avait décrit, cosmos muet et froid, violent et vide, régi par l'absurde ou la loi de la jungle, est éclairé par la lueur vacillante d'un sujet humain civilisateur seul dans l'univers. Ce monde qui n'est pas habitable, ce monde n'est qu'une construction de l'esprit. Le monde auquel nous sommes restitués lorsqu'on piste, presque sans le vouloir, est simultanément plus aventureux et plus hospitalier. Aventureux d'être ainsi repeuplé de mille formes de vie fascinantes avec lesquelles il va falloir recommencer à négocier des modus vivendi. C'est un monde plus exigeant en diplomatie, mais plus accueillant du fait même que les relations constitutives ne sont pas niées ni déchirées, et que la solitude cosmique des modernes n'y existe pas, puisque nous sommes bien entourés par tous les autres, les vivants, les rivières, les bactéries, les végétaux, les animaux, les insectes, les océans, les friches et les forêts qui nous constituent du dedans. Pister, dans cette mesure, est enfin un art de rentrer chez soi. Ce point devient intelligible par contraste, si l'on interroge cette autre manière de faire chez soi qui consiste à civiliser un espace sauvage. Dans l'histoire coloniale, ce topos est intéressant. Le colon, issu d'un milieu différent, volontiers urbain, considère qu'un territoire nouveau, sauvage, ne devient civilisé que dans des conditions bien particulières. Civilisé signifie que les arrivants, ignorants de l'éthologie et de l'écologie des cohabitants non humains, peuvent y vivre sans la moindre vigilance et en toute innocence. C'est-à-dire ignorance plus insouciance. L'espace est civilisé si je n'y risque rien sans même le connaître de l'intérieur. Et pour cela, il faut l'expurger de tous ces êtres étrangers, araignées, moustiques, fauves, bactéries, qui deviennent dangereux dès lors que je ne sais pas comment cohabiter avec eux. Voilà en un sens ce que signifie « domestiquer » ou faire foyer dans la nature sauvage pour un colon. Or, sur le même territoire, les autochtones sont bien chez eux, et même bien plus chez eux sans avoir à détruire systématiquement ou à contrôler tout ce qui déborde ou qui fait sa vie suivant d'autres normes que les nôtres. Il serait absurde de croire que ces espaces arpentés depuis toujours par les autochtones sont pour eux sauvages et inhospitaliers. Bien sûr, tous deux transforment le milieu pour le rendre mieux habitable, mais pas sur le même vecteur de civilisation. Civiliser un lieu sauvage pour le rendre habitable est probablement un concept de colon urbain, car les autochtones et les ruraux y sont chez eux, sans détresse. Ils ont établi des formes de confort dont la spécificité est qu'elles exigent une vigilance minimale, c'est-à-dire une disponibilité à l'imprévu, attentive et diffuse, et une connaissance de l'éco-éthologie des cohabitants du lieu. Mais le civilisé, lui, veut vivre en toute solitude cosmique, sans avoir à être vigilant à son environnement désormais vidé de présence, sans avoir à le connaître, et à négocier avec des puissances animales, végétales, écosystémiques, atmosphériques, qu'il considère comme inférieures. Par une étrange symétrie, il vit comme une libération à l'égard des contraintes du milieu, ce qui est probablement, pour l'autochtone issu de milieux multispécifiques intégrés, une aliénation dans un monde mort. Rappelez-vous la scène finale du film de Kurosawa, Derzu Uzala, où le vieil homme des bois, habitué à discuter avec le feu et à négocier avec les êtres de la forêt, se retrouve seul dans une chambre de béton nue, scrutant la cheminée vide. Un conte des Indiens Dena Ina du Pacifique Nord conseille aux marcheurs perdus dans la forêt d'appeler le loup à l'aide pour retrouver son chemin. Au regard de Pierre et le loup et du petit chaperon rouge, il s'agit d'une assez pure inversion du mythème perdu dans la forêt. Le grand danger ici est le salut là-bas. C'est qu'il ne s'agit pas de la même manière de faire foyer dans un monde peuplé d'autres formes de vie puissantes. La différence revient alors à cette vigilance minimale, cette disponibilité latente branchée sur les flux du dehors, chérie par ceux qui peuplent des territoires vivants, par ceux qui les connaissent et qui considèrent que cette intimité avec des altérités irréductibles, parfois dérangeantes, n'est pas une malédiction, mais le nom tranquille du chez-soi, du foyer, le nom de la vraie vie comme tissée et présente au monde. Civiliser un milieu, donc, ne qualifie pas toute attitude d'être chez soi quelque part. C'est croire que pour être chez soi, il faut vivre en pouvant ignorer, dédaigner, rendre dépendant puis conduire les formes de vie et les conditions écologiques du milieu. Qu'il faut, pour être chez soi, avoir extrait le foyer humain des communautés biotiques et avoir codé le milieu vivant comme contrainte dont il faut s'émanciper. Qu'il faut l'avoir destitué de son statut d'environnement donateur tissant des entités interdépendantes, c'est-à-dire son statut d'entrelacs de liens qui libère. Mais il existe aussi d'autres manières de faire du milieu un foyer, pour qui, au contraire, c'est cette vigilance vibratile à la pluralité des formes de vie, cette diplomatie interminable avec les autres, qui ne sont dangereux que si on les ignore, qui est la forme désirable de l'habiter. Le pistage nous ramène à la maison, alors parce que la patience de la panthère, la vigilance aux yeux plissés du pisteur, son sens de la richesse des choses discrètes, s'applique volontiers désormais aux vivants moins spectaculaires qui nous entourent dans des mondes plus urbanisés, par exemple les lombrics, du lombricomposteur installé dans la cuisine. Le lombricomposteur devient un objet fascinant.